I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Macron, démission. Macron, démission.
Quelle heure est-il?
Ah, faut dire maintenant.
Mesdames et messieurs, bonsoir.
Facile, 4 quarts.
Un quart qu'à 6.
4 jours et un micro.
Un quart citron. Un quart en bas.
On va pas du tout baser autour de l'apéro.
Je suis en train de te remettre en question.
Tu veux qu'on prenne 5 minutes?
Je pense qu'on est plus à 5 minutes près, hein.
Bonsoir et bienvenue.
Ça a saturé à mort.
Sorry.
Mes oreilles. Ouh. C'est bon,
qu'on
toi bien. Non, c'est bon, pas grave.
Bonsoir.
Bonsoir. Non, ça marche pas. C'est très peu 4 quarts d'heure, ça.
Bonsoir et bienvenue dans 4 quarts d'heure, le podcast qui durait 4 quarts d'heure.
4 quarts d'heure. 4
quarts d'heure.
Enregistrement depuis la Belgique, je sais pas pourquoi.
Ah, c'était belge, ça.
Ouais, j'aurais plutôt dit allemand, mais après... Ouais.
Ah, peut-être. Moi, je suis... Eh ben. Désolée à tous les matinés.
Le niveau se perd par ici.
Bienvenue dans 4 quarts d'heure, le podcast qui durait
4 quarts d'heure.
Aujourd'hui, je suis entourée, bah, comme d'habitude, de stars, tout simplement, oh bah, internationales, puisque j'ai à ma droite Kalindi Rumpfel.
Oui, bonjour.
Ainsi que à sa droite, Louise Petrouchka.
Oui, bonjour.
Et nous avons une invitée exceptionnelle aujourd'hui, qui est Esther Meunier, Esther Reporter.
Oui, bonjour.
Comment tu préfères qu'on te présente d'ailleurs?
Oula.
Esther Reporter ou Esther Meunier?
Mon vrai nom, c'est quand même Esther Meunier. Oui. Mais après, ça dépend. Si tu me parles sur Instagram, c'est plutôt Esther Reporter. Mais Esther, c'est bien, juste Esther.
Esther. Esther.
Esther qui est à la droite de Louise, mais qui est cependant bien à gauche.
Comme et elle oui, elle est en grève aujourd'hui.
Elle est en grève et elle travaille juste pour ce podcast. Et ensuite, elle va à la manif. Donc,
oui. Force aux grévistes, n'hésitez force pas, grévistes. Caisse de solidarité.
La retraite, à 60 ans. Bon, c'est bon, je vais pas le faire tout de suite.
Putain, l'autre jour, j'étais dans le métro et j'allais au théâtre et je suis sortie à République et j'avais oublié. Tu sais, quand je suis sous terre, j'oublie qu'il y a
des trucs en haut.
Et donc, je me suis fait gazer en sortant du métro. Donc je pleurais.
Est-ce que c'était mardi soir par exemple?
C'était mardi soir, tout à fait.
Exactement, on n'est pas passé loin de l'une de l'autre. Après, ils ont fermé carrément la station. Moi j'attendais mon métro pour rentrer chez moi. Ils ont dit allez, merci d'évacuer maintenant, vous remontez à la surface. Et après, il y avait des policiers à toutes les sorties. Donc c'était compliqué de trouver celle où on pouvait vraiment sortir.
Ouais, ah, non, ouais. Mais c'était impossible. Du coup, moi j'ai pas pu sortir. Donc j'ai dû prendre la 11 jusqu'à Goncourt. Bref, c'est des détails. Mais tout le monde hurlait sur le quai et tout, à cab. Paris se soulève et tout machin, c'était impressionnant.
Ouais,
et moi j'étais avec mon petit manteau sur mon nez parce que je pleurais et tout. Enfin, bon, vu qu'il y avait, j'étais émue, mais c'est surtout les gaz.
ça crée toujours une émotion de toute façon.
C'est une émotion particulière. Non, mais ouais, tu sentais la ferveur quoi. Donc c'était impressionnant. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler des grèves. On est là pour un épisode tout spécial.
Oui.
Tout spécial.
Oh.
Tout spécial.
Il est tout spécial.
Il est tout spécial.
Il est tout spécial, cet épisode.
Il est tout spécial puisque on participe à une initiative qui s'appelle le Podcaston.
Tout à fait.
Ouais.
Bravo.
Bravo.
Bravo moi.
Bravo à nous de participer à ce truc. Oui, bien sûr.
Bravo les initiatives.
Bravo les bien initiatives.
Sûr. Est-ce qu'on explique ce que c'est?
Voilà, Loulou, est-ce que tu
bien
nous ferais l'honneur d'expliquer ce que
avec
c'est?
Avec plaisir. Alors, le Podcaston, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une initiative qui est inspirée un peu du Z-Event ou du Téléthon, etc. C'est juste une réunion de plein de podcasteurs et podcastrices.
Podcasteuse ou podcastrice, comme tu veux, okay. Ça se dit. Je peux dire podcasteurice aussi.
Podcasteurice, voilà, on va dire ça. Donc en gros, c'est un événement caritatif qui a lieu du 25 au 31 mars, donc on est en plein dedans, et nous, on a décidé de participer, car on est altruiste et solidaire finalement, et on a décidé de mettre en avant une association qui est le planning familial. Donc aujourd'hui, vous allez écouter un épisode un peu spécial, puisque en gros, tous nos up and down vont être autour de l'éducation et de la santé sexuelle, globalement, de près ou de loin, j'ai envie de dire. de dire. En gros, bah, pour les gens qui ne connaissent pas le planning familial, c'est une association qui est vraiment une association de terrain, qui a un réseau associatif et militant qui offre un peu des conseils, des services, etc. autour de l'éducation sexuelle et de la santé sexuelle. Donc vous pouvez trouver des pôles du planning familial un peu partout en France, que ça soit en France hexagonale ou en Outre-mer. Et l'idée aujourd'hui, c'est de vous inciter à aller faire un don au planning familial. Vous pouvez faire des dons mensuels si vous avez les moyens, vous pouvez faire un don ponctuel si vous n'avez pas trop de moyens, etc. Mais en gros...
Et si vous êtes de droite, c'est défiscalisé.
Voilà, exactement, j'allais dire, c'est défiscalisé et ça peut être un don soit en tant que particulier, soit avec votre entreprise, donc n'hésitez pas.
Oh là là.
Oh là là. Et donc en gros, bah, vous pouvez aider un peu le planning familial à continuer sa lutte pour l'éducation et la santé sexuelle, donc c'est important. On va le découvrir tout au long de cet épisode, puisque vraiment on a toutes des anecdotes autour de ça. Et si jamais vous n'avez pas les moyens, et ben, vous pouvez toujours parler du planning familial autour de vous, devenir bénévole. Vous pouvez même, si vous avez moins de 26 ans, je pense, vous pouvez faire un service civique au planning familial. Voilà, donc il y a plein de choses à faire. On va pouvoir en reparler un peu tout au long de l'épisode, je pense. Mais voilà, c'est une association qui nous tient à cœur toutes, car elle défend beaucoup de choses qui nous tiennent à cœur, notamment le droit à faire ce qu'on veut de notre corps. Et défend, bien sûr, il défend de l'IVG. Et voilà, donc on a plein de choses à discuter aujourd'hui et ça va être super. N'hésitez pas, le lien pour faire des dons au planning familial est dans les notes de ce podcast. Partagez cet épisode autour de vous pour qu'un maximum de gens puissent faire des dons aussi de leur côté.
Vrai.
Voilà, c'était les 3 minutes sérieuses et contextuelles de ce podcast.
C'était super bien résumé et très contextuel, sachant que juste avant le podcast, j'ai supplié Louise de le faire puisque j'étais incapable, vu que je suis en gueule de bois. Voilà.
La gueule d'hub.
Du coup, on va commencer tout de suite avec un down.
Eh oui.
Kalindi Rampfel, est-ce que vous avez quelque chose à dire?
Alors moi, j'aurais aimé pouvoir parler d'éducation sexuelle. Je n'en ai reçu aucune puisque je suis née d'un papa de l'île Maurice, mauricien, qui avait des parents indiens. Autant dire qu'on ne parlait pas de sexualité du tout, du tout à la maison. Et avec ma mère, très peu également, puisque le seul fois où j'ai vraiment parlé de sexualité avec ma mère, c'est le jour où je me suis trompée de destinataire quand j'ai envoyé ce soir. Je crois que j'ai déjà raconté ça dans un moment qui fait ce soir, j'ai envie de me faire démonter. Je l'ai envoyé à ma mère, bien sûr, au lieu de l'envoyer à une autre personne.
Exactement. Parler à une psy.
Jamais je ne verrai pas. Et ma mère m'a répondu, bien sûr, virgule, as-tu besoin de la caisse à outils?
Mais franchement, c'est une reine.
J'adore.
She's a queen.
Et ouais, attends, mais vous en avez jamais reparlé depuis?
Jamais.
Ah ouais?
Et en fait, il s'avère que avant, je possédais beaucoup de god ceinture pour des raisons que je vous laisse deviner. Et en fait, il s'avère que j'étais très jeune, j'avais 18 ans, j'avais pas les moyens d'habiter toute seule. Donc je vivais chez mes parents.
Oui.
Et j'avais une boîte à secrets sous mon lit où il y avait des draps et dessous il y avait les quelques godes ceintures que j'avais. Et un jour, ma mère a sorti le godes ceinture parce qu'elle a fait le ménage et finalement ça devait finir par arriver. Elle l'a laissé sur le lit avec un petit post-it. Je vois qu'on s'amuse le week-end. Voilà, c'était super. Donc ma mère est toujours témouine de mes.
Témouine.
Témouine.
Comment on dit?
Témoin.
Témoin. Il y a pas de féminin, je crois.
J'aime bien témoine. Témoine, c'est joli. Elle est toujours témoin des trucs finalement qui m'embarrasse le plus, tu vois. Donc,
mais c'est incroyable que du coup vous parliez jamais.
On parle
de
jamais.
Ça.
Si une fois, si une fois, non, une fois, non, oui. Une fois, j'avais genre 6 ans et demi. Je me souviens, on allait chez le médecin parce que j'avais la grippe. Et en fait, il y avait un bol à préservatif féminin chez le médecin. Et j'ai dit à ma mère, maman, c'est quoi? Elle m'a dit, on en parlera après. Et on est rentré. Elle a attendu que je sois dans mon bain pour me coincer. Pour m'expliquer, pour s'asseoir en face de moi et me dire « Alors, maintenant que tu n'as plus le choix que d'être ici, je vais t'expliquer et tu vas m'écouter de A à Z. » Elle m'a expliqué, j'étais comme ça « horrible, parce qu'il n'y avait
mais
pas d'échappatoire.
Ça te gêne ?
C'est ma mère.
Non, mais surtout, elle avait 6 ans.
Ah oui, t'avais 6 ans.
J'étais vraiment un bébé, tu vois. Elle m'a expliqué ça très rationnellement. Et après, elle m'a dit, tu le sais désormais. Et je me souviens, c'est le jour où j'avais regardé la cassette de Le cavalier sans tête. Donc c'était vraiment full une journée pas pour les gens de 6 ans, tu vois.
Journée interdite aux
journée
gens de
moins 12.
Et ma mère m'avait laissé regarder. Bon, bref. Donc, j'ai pas eu énormément d'éducation sexuelle, même si je sais que ma mère serait très ouverte au fait d'en parler avec moi. C'est plutôt moi qui me refuse à aborder le sujet avec ma mère. Ça me dégoûte.
Mais moi, j'aime bien en plus parce que tu te refuses de dire des gros mots et tout devant ta mère parfois. Enfin, pas des gros mots, mais genre, tu dis pas baiser et tout devant ta mère.
Ah, ça va pas!
Ça m'a toujours interloqué venant de toi, tu vois, qui est...
Non, mais attends. Et encore, avec ma mère, ça va mieux. Mais avec mon père, on n'a jamais eu un mot là-dessus, tu vois. Je me souviens juste qu'un jour, mon père m'a dit un truc court. C'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a genre 4-5 ans. Et il m'a dit... De toute façon, excuse-moi de te le dire, tout ce à quoi pensent les hommes, c'est à éjaculer. Et donc...
Yes.
Et j'étais là, d'accord. Je note cette information.
C'était quoi la conversation qui a mené à ça?
Franchement, impossible de savoir avec mon père. Ça pouvait n'avoir rien à voir. Je pense qu'on devait regarder les infos. Enfin, tu vois, il n'y avait vraiment aucune espèce de rapport. Mon père était un être très bizarre. Mais... qui était un peu décoré de l'existence de manière générale. Mais donc voilà, donc j'ai eu peu d'éducation sexuelle, pas grand-chose à raconter à part ces quelques anecdotes. Et puis, il fallait que je trouve un down. Donc, je vais raconter un truc que j'ai déjà raconté par ailleurs, mais pas dans ce podcast, qui tourne plutôt autour de la santé sexuelle. Moi, il y a 10 ans, j'ai chopé une IST qui a fait que dégénérer pas mal de choses dans mon petit bassin, et notamment dans ma trompe gauche. J'ai eu une première salpingite, c'est une maladie, une infection très aiguë de la trompe, qui fait que ça s'infecte et puis après il y a de l'eau, la trompe devient aqueuse, elle grossit, bon bref c'est l'enfer. J'en ai fait une première et il s'avère que j'ai été mal diagnostiquée. Petit rappel, c'était il y a donc 10 ans, c'était évidemment le 31 décembre.
Bien sûr.
Sinon ça n'a aucun
pourquoi
intérêt.
Une autre date.
Évidemment, j'étais au fin fond de Solliès-Pont, dans la maison d'une de mes amies qui s'appelle Louise-Anne Roy. C'est une maison au bout d'une route terreuse, toute pourrie. Voilà. Et en fait, c'est assez loin de l'hôpital qui est même pas dans la ville d'à côté, qui est à Toulon. Donc, assez loin, à 45 minutes. Ouais. Bref. Tout ça pour vous dire que, à 23h, quand j'ai commencé à faire aïe, j'ai mal au ventre, aïe, 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 c'est l'appendicite. Et que j'ai dit à tout le monde m'a dit, mais non, t'as trop picolé, tout. J'ai dit, non, je crois que j'ai l'appendicite. Finalement, je suis allée me coucher. Finalement, à 4h30 du matin, je me réveille. J'ai le ventre dur et bleu, je vomis, je gerbe ma race, on appelle les pompiers viennent, ils me disent « Madame, vous êtes sûre que vous avez bien fait caca aujourd'hui ?» Voilà, parce qu'évidemment, ne crois jamais que t'as un vrai truc les pompiers, je sais pas pourquoi, parce que moi à chaque fois que j'ai un truc, c'est un vrai truc, et à chaque fois ils questionnent le truc et ils sont là « Vous êtes sûre que vous faites pas un peu semblant ?» Je suis là « Non vraiment,
j'étais bourré à chaque fois. »
Et tellement il y a un chien un jour, ce pompier, ce chien, je fais un malaise dans l'enceinte de l'école parce que je m'étais trop mise en colère contre mon professeur de littérature.
C'est la meilleure cause de malaise que j'ai jamais entendue.
En fait, à l'époque, j'étais très intense et j'ai vraiment
Non
mais là, c'était vraiment ridicule, tu vois. Parce qu'en fait, on avait un exposé à faire sur Lampedusa et ils voulaient pas me rendre ma copie. Et en fait, bon, bref. Et donc, du coup, j'avais fait des
notes. Je veux savoir, du coup.
Non.
Ça me questionne.
Ça m'agace encore. Et donc, grosse crise de colère et j'avais pas mangé. Donc, je tourne dans les pommes. Et le pompier vient. Et à l'époque, j'étais avec mes copines Laura Gérard et une autre copine qui s'appelle Alice Guillaumeau. Et donc, on va dans le camion des pompiers. Ah oui. Et moi, je suis comme, en espèce de crise de tétanie, j'ai l'air qui pendouille. Et j'ai un gars qui vient me voir, donc je suis à moitié dans le coma. Il m'appuie sur l'épaule, je lui dis oui, donc c'est le pompier. Et il me dit, dis-moi, ta copine Alice, là, celle qui a les yeux verts, elle a pas un numéro de téléphone?
Mais non.
Oh my god.
Aïe, aïe. Les hommes, c'est chiant en toutes circonstances.
Bah, les hommes, ils pensent qu'il y a une chose, hein.
Et j'acculais. Enfin, bref, finalement, les pompiers m'emmènent à l'hôpital. Je tombe sur un fils de chien incroyable, un vieux médecin tout pourri aux urgences. Après, je sais que ces gens-là ont beaucoup de travail, je sais que ça arrive, les mauvais diagnostics. Il me dit, vous avez la gastro, rentrez chez vous, prenez du Smecta. Je l'ai chopé au col, je lui ai dit, je vais mourir. Donc, vous me prenez maintenant, vous m'hospitalisez. Donc là, ils m'ont fait voir quelqu'un d'autre. Ils sont allés chercher mon ex-compagnon Naël. Ils lui ont dit, venez calmer votre femme qui est hystérique, bien sûr.
Bien sûr.
Donc, là, j'étais... Faut dire qu'à ce moment-là, j'étais quand même particulièrement en train de hurler chaque personne.
Mais parce que t'avais raison. Mourir.
Exactement. Oui. Et si j'avais pas gueulé, je serais peut-être morte. Bref, ils m'ont fait voir une gynécologue qui m'a dit « On vous opère dans la demi-heure ». Parce qu'en fait, j'avais une salpingite, mais des deux côtés. Mes deux trompes étaient affectées. Bon, bref. Il s'est avéré qu'une fois que mes trompes ont été affectées une première fois et infectées, j'ai eu j'ai fait des infections comme ça à répétition quasiment tous les ans. Infections qui m'emmènent à chaque fois, quasiment à chaque fois à l'hôpital. Ne serait-ce que pour nettoyer le foyer infectieux.
À Noël, à son anniversaire.
Noël anniversaire.
Noël, j'ai jamais fait.
Voyage, mais... voyage de presse.
Ouais, non, ça c'était la.
Les poumons.
Non, il s'est avéré que parce que, mais je pense, il faut que j'en parle à mon. Putain, j'en ai pas parlé à ma psy. Bon, faut que je le note. Attendez, je note. Excusez-moi, sinon je vais oublier. Voilà. Oui. Donc, il s'avère qu'après, j'ai eu tous les ans des problèmes de trompe, machin. Faut savoir que, je ne l'ai pas dit, c'est particulièrement douloureux.
Voilà. Oui, oui.
Et c'est très douloureux. Et puis, ça s'accompagne évidemment d'une grosse fièvre. Et évidemment, ça s'accompagne d'énormes saignements. Et moi, je me rappelle que c'était il y a 4 ans, je pense. C'était le jour de mon anniversaire. Ouais. C'est ça, hein.
C'était
les 4 ans. Le 20 octobre. Sinon, c'est pas drôle. Il y a 3 ans. Oui, je venais de me séparer de mon ex-conjoint. Je cherchais un appartement, je vivais chez ma mère. Mon père était en train de mourir d'un cancer. C'était vraiment une super période méga fun. Et le jour de mon anniversaire, je me disais, je suis en mai, je vais au resto et tout. Et je commence à me sentir pas bien au resto. Et j'étais avec quelques amis qui m'ont dit, va à l'hôpital vraiment. Et j'ai dit non, parce que ici, il y a le meilleur dessert. Donc, j'ai vu.
Ce qui aura marqué ton épitaphe. Il y avait le meilleur dessert.
It was worth it. It was worth it. Et en fait, j'ai attendu et donc je suis allée dormir chez ma mère et le lendemain matin, je me suis réveillée avec des douleurs et je pleure parce que je sens que c'est là. J'ouvre la couette et j'avais un pyjama, ce qui est très rare. Et j'avais un bas de pyjama et c'était rempli d'un sang noir, tu sais, le sang qui te fait peur, épais là. Et donc là, je chiale de fou. Ma mère m'emmène à l'hôpital et elle me dit, bon là, je pense qu'il va y avoir encore une opération. Bref, le truc, c'est que je me suis dit, tant qu'à avoir ces problèmes-là, autant qu'on résolve le problème une bonne fois pour toutes et qu'on m'enlève ces putains de trompes. Ma chirurgienne a été d'accord. Donc cette fois-là, on m'a opérée juste pour me nettoyer. Mais en fait, tu ne peux pas enlever des organes pendant une infection parce que ça crée des adhérences qui sont super dangereuses pour la santé.
Ok.
Donc de fait, il faut absolument te prendre. Alors c'est possible, mais c'est dangereux. Il faut t'opérer à froid. Donc moi, on a dû attendre 1 an que tout soit bien remis pour pouvoir m'enlever les trompes. Et il s'est avéré que l'année d'après, je vais chez ma chirurgienne, genre en juillet ou août, elle me dit, écoutez, je n'ai qu'une place pour cette opération, pour vous enlever les trompes, c'est le 20 octobre.
Bon anif.
J'étais là, PTDR. Franchement, comique. Donc, je lui dis, bah écoutez, tant pis, de toute façon, j'aime pas mon anniv, donc autant faire ça. Et donc, me voilà le jour pour me faire enlever les trompes. Et elle me dit, bon écoutez, on va voir exactement ce qui se passe, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas été checké à l'intérieur vraiment, par célioscopie. Donc, une célioscopie, c'est une opération où on ouvre des deux côtés vers les trompes, et plus une petite dans le nombril. En fait, on passe des tuyaux, on va regarder, et puis on passe les instruments comme ça. Mais c'est super. Pourquoi ? Parce que ça fait très peu de cicatrices. En vrai, c'est quand même assez traumatique. Enfin, c'est une opération qui est invasive. Toutes les opérations le sont de manière générale, surtout quand ça touche à ton petit bassin. Et moi personnellement, j'avais pas envie de me retrouver avec un énorme truc qui me balafrait le ventre, donc j'étais très contente de ça. Et il s'avère que moi, je m'étais mis dans la tête que au sortir de cette opération, j'aurais plus à me soucier de mes problèmes de trompe vu qu'on me les aurait enlevés. Il s'avère que je me fais opérer, je me réveille, je me dis chambé, j'ai plus de trompe. Au début, j'avais dit enlevez-moi l'utérus, franchement. Enfin, enlevez tout, tu vois, parce que en vrai, comme ça, j'ai plus. Enfin, on arrête avec cet enfer, quoi. Parce que j'ai eu entre temps une tumeur précancéreuse dans l'utérus, donc en vrai, j'étais là. Stop, avec ça, enlevez-moi tout ça. Et elle m'avait dit, c'est pas possible parce que si on vous enlève ça, ça augmente les risques du cancer par ailleurs. Enfin bon, bref, c'est vraiment, tu touches un truc, il y a un autre truc qui fait bip bip. Donc c'est pénible quoi. C'est exactement ça. Et en fait, je me suis réveillée, elle m'a dit, voilà, alors on a pu vous sauver la trompe gauche. Et j'espère que vous êtes contente. J'étais là, comment ça, vous avez pu me sauver cette putain de trompe? Je vous avais dit d'enlever tout. Et donc il s'avère qu'elle m'a enlevé que la. Attends, c'est laquelle? Non, c'est celle-là. Donc, il s'avère qu'elle ne m'a enlevé que la trompe droite et qu'il me reste ma trompe gauche, ce qui me pose un souci puisque il y a quelques mois, je suis retombée malade, j'ai refait une salpingite.
Plot twist,
le jour de mon
ça, c'est fou, hein. C'est dingue quand même.
Mais ça faisait quelques jours que j'allais pas bien, donc ça s'est pas déclenché le jour de mon anniversaire.
Ouais, mais le timing à chaque fois est quand même
exceptionnel.
En fait, c'est un timing, et c'est surtout qu'elle est quelqu'un qui a une résistance à la douleur un peu surhumaine. Et je t'ai déjà vu venir au travail.
Oui,
tu sais, vraiment, elle peut pas réagir tellement elle a mal, tu vois, mais elle reste là. Donc oui, c'est toujours très impressionnant. Donc,
mais non, mais pourquoi j'étais venue au travail cette fois-là? Je me souviens, j'avais fait une salpingite l'annuelle, quoi. Et il s'est avéré que c'était la veille de partir en festival à Deauville. Et
avec
en fait,
moi.
Je culpabilisais de laisser Alix partir toute seule couvrir le festival. Et donc, du coup.
Non, mais la meuf, elle se préoccupe plus de son travail que de sa santé, c'est quand même pas fou.
Du coup, j'étais là, je vais tenir. On va faire le festival, on a prévu trois vlogs.
Regarde, elle était là. Si, si, ça va. Non, ça va. J'étais là, t'es sûr tu veux pas aller à l'hôpital? Et t'es là.
Ouais. Non, c'est bon. Et après j'étais allée me faire opérer et après j'étais allée à Deauville mais en mode incognito. Et après j'avais peur que les gens me reconnaissent et se disent pourquoi elle travaille pas, donc j'avais mis un bob.
Non, t'avais mis non, il y avait pas qu'un bob, il y avait une casquette, un bob, une écharpe, il y avait un hoodie et elle m'attendait sur la plage, elle était là, je suis dans le coin, viens me voir. Et on est allé manger dans un resto plus loin pour que personne ne nous croise.
Ah oui, bien sûr.
Puisque Kalindi, la star de Deauville.
Non, mais je me disais, imagine, je croise un RP à qui j'ai dit je suis malade et en fait, il me voit à Deauville tranquille en train de fumer des clopes, tu vois.
Non, mais vrai.
Et moi, personne n'aime l'hôpital, mais personnellement, j'ai quelques traumatismes avec l'hôpital. J'ai vraiment pas très envie d'y passer trop de temps. Bref, il s'avère que j'ai toujours une trompe et que quelques jours avant mon anniversaire, j'ai découvert que je faisais une nouvelle salpingite de l'autre trompe qui me reste. Et en fait, ma trompe est pleine d'eau. Et il s'avère que le risque en ayant ce problème-là, c'est de faire... je prends plus de contraception depuis quelques années déjà. Et c'est le risque de faire une grossesse extra-utérine et une grossesse dans la trompe, ce qui est excessivement dangereux, ce qui peut causer notamment le décès d'une personne. Donc j'ai vraiment décidé là cette fois-ci de vraiment... Ce qui fait chier, c'est que ça me fait faire deux opérations alors qu'elle aurait pu vraiment faire ce que je lui avais dit.
Non mais moi, c'est ça qui me rend ouf en fait. C'est
incroyable.
Qu'il y a quand même un personnel soignant à qui tu dis « Voici mon avis de personne éclairée sur ma propre santé. Vous m'avez exposé les faits. De, c'est possible de m'enlever les deux trompes et ça sera ok pour ma santé. »
Et qu'est-ce qui se cache derrière le fait qu'elle ne le fait pas en
mais
fait.
Bien sûr.
C'est parce que c'est parce littéralement elle pense que tu veux des enfants et que, ou que tu, même si tu n'en veux pas maintenant, tu vas en vouloir.
Exactement.
Et que ton avis d'aujourd'hui n'est pas valable pour le reste de ta vie en fait.
Sachant qu'elle sait très bien que potentiellement tomber enceinte pas de la bonne manière entraînerait des causes très graves, d'autant plus que cette chirurgienne est une femme qui a je pense 35 ans tout au plus, avec qui j'ai eu cette conversation plusieurs fois, de dire moi je ne veux pas d'enfant a priori. En effet, peut-être que je me réveillerai dans 5 ans et que j'aurai envie d'un enfant, mais je préfère vivre en fait et trouver des solutions alternatives comme faire une FIV par exemple. Donc, et surtout, en fait, au-delà du problème de ma chirurgienne, moi, je me suis vraiment questionnée sur comment j'étais reçue à chaque fois que j'avais un problème d'ordre gynécologique auprès de gens qui n'étaient pas spécialistes de la gynécologie, mais qui demeurent des médecins. C'est-à-dire que moi, quand je vais aux urgences et que je dis, je sais quels sont mes problèmes, j'ai des problèmes gynécologiques, et je pense qu'il faut fouiller dans ce truc-là, et qu'on me dit, non, je pense que c'est des calculs rénaux, comme c'est arrivé la dernière fois que je suis allée à l'hôpital, et que c'est moi qui dis, attendez, je vais pas vous expliquer votre putain de métier, je ne suis pas tout bip, je vous dis que ce sont mes trompes, j'ai l'habitude, donc écoutez-moi, faites-moi passer en service gynécologique et dites que c'est une urgence, parce que je vais pas attendre 5 heures de me vider de mon sang, tu vois.
Si t'étais allée voir Meredith Grey dans Grey's Anatomy, elle t'aurait écouté parce que...
Exactement.
Bah c'est vrai, l'autre jour...
Dans l'épisode que je regardais dans la saison 4.
Exactement, dans l'épisode de la saison 9, un moment, il y a une dame qui dit à tout le monde, mon enfant va pas bien, je sais, j'ai regardé sur internet, ça peut être la maladie de Kawasaki, tu vois. Et tout le monde est là, oui, enfin, laissez-nous faire notre métier et tout, vous êtes pas diagnostiqueuse. Elle fait, oui, mais vous m'envoyez tout le temps, vous me renvoyez à la maison avec des doliprane, le gars va pas bien, tu vois. Et c'est Meredith Grey qui dit, moi je vous crois. Et donc elle l'accompagne et tout machin, et refont des tests.
Je me souviens.
Et c'est là qu'elle a la maladie de Kawasaki.
Mais oui, c'est ça.
Horrible. Dommage qu'il n'y ait pas Meredith Grey dans la vraie vie.
Putain, quel dommage. Ni Docteur Mamour surtout, mais bon, tant pis. Ouais. mais oui, en fait, ça a été assez... je vais pas dire traumatisant parce que c'est pas vrai, mais ça a été en tout cas une très grosse déconvenue qui m'épuise d'avance parce que je sais que c'est encore une opération, c'est encore un truc pas anodin. Encore une fois, le petit bassin, ça touche quand même à quelque chose de très intime. D'autant plus que moi, ces problèmes-là affectent de facto ma fertilité par ailleurs. Je pense qu'il y a aussi une forme de conditionnement chez moi quand je me dis est-ce que j'ai envie d'avoir un enfant ou non. Il y a aussi le fait de savoir que même si j'en voulais, ce serait très compliqué pour moi, ça prendrait énormément de temps. Et ce serait encore quelque chose de très invasif et de très émotionnellement prenant. Voilà. En tout cas, je veux pas faire un mauvais portrait du personnel médical, d'autant plus parce que je suis tombée sur des femmes. Toutes les personnes qui m'ont écoutée et toutes les personnes qui ont réussi à me diagnostiquer correctement ont été des femmes et ont été des femmes qui étaient des gynécologues, donc c'est un peu normal. Mais je veux pas dresser un mauvais portrait du personnel soignant, je sais combien c'est difficile. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, c'est quand même une très, très, très grosse déconvenue. Et voilà, donc ce qui fait que c'est un down et non pas un
up. Mais c'est aussi une histoire de recherche, en fait, que c'est pas prouvé, mais c'est le fait est qu'il y a beaucoup moins de recherche sur corps des femmes que sur le corps des hommes. Et que j'ai vu l'autre jour qu'il y avait des médicaments qui étaient OK pour les hommes, et en fait, on n'a jamais testé sur des femmes. Et du coup, c'est trop en fait. Enfin, tu vois, il y a tout un truc de la société aussi qui fait que on est plus difficile à diagnostiquer. Je crois que c'est l'autisme aussi qui est beaucoup moins diagnostiqué
tard,
chez les femmes
et qu'on diagnostique plus tard en général.
Parce que en fait, les tests sont faits pour les hommes. Donc voilà.
Mais rien que l'endométriose, en fait, il y a 10 ans, c'était vraiment genre. Moi, j'ai deux sœurs qui sont atteintes d'endométriose. Au tout début, quand elles étaient en mode, en fait, on est en train de crever à chaque fois qu'on a nos règles, donc c'est vraiment tous les 28 jours, c'est quand même un peu compliqué. C'était vraiment genre, vous avez des règles douloureuses, tout va bien, tu vois. Et en fait, là, ça va parce que c'est en train de. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, quand on est 800 000 à parler, à un moment donné, ils sont en mode, peut-être qu'on va s'intéresser à ce sujet, tu vois. Mais donc, du coup, il y a vraiment ce truc-là où, du coup, la recherche, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un gap parce qu'en fait, juste. Les meufs, quand elles parlent, on les écoute pas, donc...
Ouais, c'est ça. Et il faut amener son mec pour la calmer parce qu'elle est hystérique. Ouais. Ça me rend ouf, quand même.
Ça, c'était incroyable.
Ça rend fou.
On aurait pu se battre ce jour-là avec Naël, mais il y avait plus d'important, c'était que je ne meure pas. Donc, on s'est pas battu, mais on n'était pas loin. Enfin, voilà. Donc, il ne me reste plus qu'une trompe, et ce sera bientôt fini. J'espère qu'on va bientôt me l'enlever. Voilà.
Je croise les doigts pour toi.
Merci beaucoup.
Courage. Merci beaucoup pour ce down.
Mais je vous en prie.
Ma vieille mère. Je passe donc à un up. Est-ce que quelqu'un veut commencer en particulier ?
Honneur à l'invité, peut-être, Esther.
Honneur à l'invité. D'ailleurs, allez. Esther, je viens de me rendre compte à l'instant que on a dit qui tu étais, mais on n'a pas dit ce que tu faisais.
Ah oui,
donc,
c'est vrai.
Si tu veux un petit peu introduire ton métier, tes combats.
Oui. Ce qui va être en rapport de toute manière avec ton up, finalement, je pense.
Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, je suis Esther Meunier, alias Esther Reporter, et je suis journaliste, globalement. Donc, en ce moment, je travaille pour un média écolo qui s'appelle Now You, N-O-W-U. Mais ce n'est pas tout ce que je fais, puisque déjà, j'ai beaucoup travaillé sur les sujets féministes, y compris avec vous, chez Mademoiselle, puisque c'est là qu'on s'est rencontrés. Et où je m'occupais des sujets société, etc. Et c'est un truc que j'ai continué à faire par la suite en tant que journaliste pigiste, freelance, etc. Et que je continue de faire en ce moment, car pourquoi avoir un seul travail quand on pourrait en avoir deux et frôler le burn-out ? Co-réalise un documentaire sur le sujet des droits sexuels et reproductifs avec Marie De Brouwer, notamment, qui est déjà venue sur ce podcast.
Oui,
donc,
tout à fait.
Vos auditeuristes doivent la connaître. Donc on travaille ensemble sur ce sujet en ce moment avec la boîte de production 3 jours de marche. Et effectivement, si je voulais en parler aujourd'hui, c'est parce que déjà, c'est un sujet qui me trottait dans la tête depuis 5 ans. Donc je suis très contente. C'est un gros up de, en fait. Ah oui, alors le up, en gros, c'est qu'on a enfin commencé le tournage. Mmh. Il y a genre une semaine, deux semaines, où on est parti à Budapest pour faire des interviews qui tournent autour des droits sexuels et reproductifs. Donc on a parlé notamment avec deux personnes d'une ONG qui s'appelle Patent, qui travaille sur notamment l'accès à la contraception et à l'IVG en Hongrie, où c'est de plus en plus compliqué. Enfin, par exemple, ils ont décidé qu'à partir de septembre dernier, il fallait absolument écouter le battement de cœur du fœtus avant de pouvoir accéder à une IVG. En parallèle, dans les droits sexuels et reproductifs, en fait, dans ce documentaire, on va s'intéresser donc à tout ce qui est éducation sexuelle, mais aussi contraception, IVG et tout ce qui est droits des personnes LGBTQIA+. Mmh. Et en fait, il y a un autre volet où on a interviewé David Vig, qui est le président d'Amnesty International Hongrie, qui nous racontait comment les droits des personnes LGBT sont donc menacés en Hongrie, et notamment les personnes trans et intersexes n'ont plus le droit à la reconnaissance légale de leur genre sur leur papier d'identité depuis 2020 en Hongrie. Et on a aussi parlé donc avec une personne qui s'appelle Monica et donc qui est une femme trans et ses papiers d'identité indiquent encore son dead name.
Wow.
En fait. Le mauvais genre du coup et voilà. Enfin bref, on a parlé
dead
name de tout
pour
ça.
Pour les gens qui sont pas au courant, c'est le nom de naissance en fait qui du coup est en général la personne trans. Voilà.
C'est ça. Donc du tout coup, à fait.
C'est le nom qu'on n'utilise plus et ne demandez pas aux personnes trans. Quel était leur nom avant ? car leur nom, c'est leur nom de personne qu'ils se présentent comme ça. Et vous n'avez pas besoin de savoir avant. Voilà, c'est tout.
Voilà, exactement. Donc là, comme ça, ça fout un peu le seum hein, quand on parle de tout ça. Mais en vérité, moi, c'est mon up parce que du coup, c'était un peu le premier pas très concret dans la réalisation de ce docu que vraiment, comme je disais, j'avais en tête depuis genre 5 ans. Il y a 5 ans, quand j'étais chez Mademoiselle, j'avais fait toute une série de reportages à l'étranger sur le droit à l'IVG. Déjà, on est allé dans plein de pays. Enfin, j'étais allée dans plein de pays... où l'IVG était interdit globalement pour y parler, droits des femmes, etc. Donc on avait fait Sénégal, Liban, Chili, Argentine, Irlande du Nord et Irlande. Et on devait faire en fait les États-Unis à l'époque pour parler d'un pays où pour l'instant c'était légal, mais où on sentait que ça risquait de reculer. Spoiler, ça a reculé depuis, mais vous êtes au courant. Et donc ça faisait vraiment 5 ans que j'étais genre il faudrait vraiment que je traite ce sujet, il faudrait vraiment que je traite ce sujet, je sais pas comment faire, j'ai fait 2 résidences d'écriture et en fait à chaque fois je butais sur oui mais j'ai pas d'argent et je ne savais pas comment chercher, jusqu'à ce que deux amis à moi très chers, Raphaël et Léa, me disent bon écoute meuf ça suffit, maintenant tu te prends 2 jours, tu vas à la campagne et tu réfléchis sur comment trouver de l'argent. Merci à elle, car du coup j'ai fait ça. J'ai commencé par lister toutes les bourses avant de me rendre compte que pour y prétendre dans la majorité des cas, il me fallait une boîte de production. Donc je me suis mis en quête d'une boîte de production. J'ai trouvé 3 jours de marche. Merci encore à Diane et Raphaël, mes producteurs, qui ont accepté de faire tout ça. Et à Marie, du coup, d'avoir accepté de me rejoindre sur le projet, car moi je savais genre comment, qu'est-ce que je voulais dire dedans, mais... je n'ai aucune compétence en réalisation de type comment on va rendre ça intéressant à l'image et joli et pas genre ennuyeux et tout. Donc voilà, on a commencé à travailler là-dessus ensemble, on a eu des financements en décembre dernier et on a commencé le tournage donc la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines à Budapest. On va en Italie, à Rome, pour rencontrer une gynécologue qui est aussi influenceuse la semaine prochaine et qui va nous parler de la situation en Italie où c'est pas très jojo non plus.
Ok.
Et voilà, et ensuite on ira aussi en Pologne normalement, et on devait aller aux États-Unis mais on n'aura probablement pas l'argent pour le coup pour aller aux États-Unis. Et on ira bien sûr en France, puisqu'en France aussi il se passe des trucs. D'ailleurs j'ai hésité aujourd'hui pour entre un up ou un down, j'aurais pu parler de l'actualité puisque le planning familial, là l'antenne de Strasbourg en l'occurrence, mais c'est arrivé plusieurs fois là-bas, c'est arrivé en Gironde aussi. Se font vandaliser entre guillemets avec des tags anti-IVG et enfin bref, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent en France sur le sujet. On parle beaucoup de la constitutionnalisation, il est très dur à dire ce mot, constitutionnalisation de l'IVG que Emmanuel Macron a très opportunément annoncé le 8 mars dernier, MDR. Mais en plus dans des termes qui en réalité ne garantissent pas vraiment l'exercice du droit à l'IVG, puisque la formule qu'ils voudraient retenir, c'est une formule qui dit que, le gouvernement définit les conditions dans lesquelles s'exerce le droit à l'IVG, ce qui, du coup, ne garantit pas si qu'on ne puisse pas rogner sur les fameuses conditions.
Ouais, bien sûr. Okay.
Donc voilà, il y a quand même des choses à faire sur le sujet en France. Et,
Je me souviens que tu as fait des appels à témoignages auprès de ta communauté et tout. Est-ce que tu as encore besoin de témoignages, puisqu'on est quand même écouté par plein de gens? Ou si éventuellement il y a des gens en Pologne ou en Italie
qui connaissent
des gens?
Eh bien, écoutez, oui, j'ai encore besoin de témoignages, notamment en Pologne. Donc, si vous connaissez des gens, soit qui ont essayé ou ont réussi à avorter alors qu'elles sont polonaises ou qu'elles vivent en Pologne, soit si vous connaissez des gens qui sont LGBT dans ce pays, ça m'intéresse. De même pour les États-Unis, en particulier dans les États où, l'accès à l'IVG a vraiment reculé depuis juin dernier, donc ça fera bientôt un an, et bien oui, toutes les personnes qui ont des choses à raconter sur ce sujet peuvent m'écrire sur mon mail, qu'on pourra mettre dans les notes du podcast éventuellement.
Pas de souci. Ou en DM sur Insta.
Ou en DM sur Insta, @esther_reporter.
Ok, voilà. Très bien. On mettra tout dans les notes du podcast. Mais bravo, car moi,
bravo.
Je suis tes aventures et l'envie de faire ce documentaire depuis un moment. D'ailleurs, tu en parlais de tes reportages que tu avais fait pour Mademoiselle et tout. On les mettra aussi dans les notes du podcast, parce que moi, j'ai souvenir que je les avais lus attentivement et que vraiment c'était passionnant.
Mais on avait aussi fait des podcasts d'ailleurs.
On avait fait des podcasts.
On avait fait à chaque retour de chaque pays, on avait fait un débrief en podcast.
Ouais. c'était vraiment très intéressant. Bah, on mettra tout dans les notes du podcast si ça vous intéresse vraiment de vous renseigner sur ces sujets-là et de lire un peu ce que Esther, enfin d'écouter et de lire ce que Esther a fait. Mais en tout cas, ouais, je suis très contente de voir que ça évolue et je suis vraiment très heureuse d'avoir fait. Tu sais, Esther, Marie, elle a fait un super documentaire. Peut-être que la boîte de prod serait intéressée par ton sujet. Et du coup, je suis trop contente que là, ça prenne
forme. C'est grâce à toi. Mais oui, mais parce que
J'ai fait un lien.
Oui, c'est incroyable. Parce qu'au final, on s'est rencontrés pour la première fois avec Marie à ton anniversaire, je pense, Louise.
Ah, oui,
et après, on s'est mis à travailler. Ou juste avant, on avait décidé de travailler ensemble parce qu'elle travaillait déjà avec 3 jours de marche. Ouais. Et bref, c'est incroyable. C'est vraiment big up. Je suis trop contente de travailler avec elle. Là, d'ailleurs, elle vient de sortir son autre documentaire qui s'appelle Camille cherche l'amour. Franchement, je l'ai regardé mardi soir, en revenant de République où je m'étais fait gazer également, justement. Et c'était vraiment le meilleur moyen d'être réconfortée. C'est un documentaire qui est vraiment très beau et tout doux et qui, je savais que c'était une personne formidable qui fait du travail incroyable, mais genre, le voir et me dire, oh mon Dieu, j'ai la chance de travailler avec elle, c'est encore mieux. Donc voilà.
C'est trop cool.
Je suis très contente.
Trop bien.
Trop bien. Bravo pour ce documentaire et trop heureuse que vous travaillez ensemble toutes les deux. Ça me fait trop plaisir. Ouais. J'ai trop hâte.
Merci.
J'ai trop hâte de voir la suite. Est-ce que tu as une idée de combien de temps ça va vous prendre à tourner et à...
Normalement, le tournage, il doit se faire là, sur mars-avril.
Ouais.
Donc, on est vraiment plein dedans. Et ensuite, l'objectif serait que ça sorte fin juin, à peu près pour les 1 an de ce qui s'est passé aux États-Unis. Non, ce sera diffusé sur ma chaîne YouTube et en extrait aussi sur nos comptes Instagram respectifs avec Marie. Voilà, normalement. Après, potentiellement, ça pourrait finir à un moment sur une plateforme de documentaire, mais c'est pas encore certain du tout. Et l'objectif, de toute façon, est que le documentaire soit accessible gratuitement au plus grand nombre. Mmh. C'est de toute façon, je crois, les conditions. Hein, quand on a le CNC Talent, c'est la branche qui finance. Bon, là, on va vraiment dans les détails, mais en gros, la production sur Internet.
C'est très slash compatible, tu vois, donc ça aurait pu.
En fait, slash, ils sont en train de faire encore un autre documentaire sur l'IVG avec Léa Bordier. Ils sont très dans l'intime. Enfin, moi, ce qu'on m'avait dit, parce qu'à l'époque, c'était eux que je visais avec ce sujet-là, c'est qu'ils étaient très dans l'intime, vraiment, et que mon truc est un peu trop journalistique pour eux. Voilà.
Okay. Trop bien, trop hâte de voir la suite. N'hésitez pas à aller suivre Esther sur ses réseaux sociaux, comme
tout
ça vous pourrez suivre si jamais il y a justement du nouveau.
Entre deux stories sur les grèves en ce moment, peut-être vous verrez un bout de Rome et du Colisée. Voilà.
Merci beaucoup Esther pour ce super up et trop contente, trop hâte de voir ça.
Oui. Merci à vous en vrai, j'étais trop contente de pouvoir venir en parler avec vous.
Attends, c'est pas fini hein.
Sais bien, mais genre je viens de finir mon up.
Reste encore 2 quarts d'heure, attention.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
D'ailleurs, c'est le moment du down d'Alix.
Oh là là! Alix Goldub, comme on l'appelle.
Alix Goldub.
T'es fraîche pour une meuf qui a la gueule de bain.
De ouf.
Ouais,
c'est fraîche comme une Hollandaise.
C'était soirée taf hier, donc on a fait 2 parties de laser game et ensuite on a vraiment beaucoup mangé et mon patron est un énorme kiffeur. Donc, si tu veux.
J'adore cette phrase.
Mais non, mais à l'apéro, il me fait t'aimes bien quoi comme shot? Je fais moi j'aime bien le double orgasme. Tu sais, c'est le Baileys et le Jet 27 mélangés.
Oh, quel horreur!
Vous n'avez pas goûté, c'est incroyable. Et il a commandé ça en entrée et la meuf elle était là. Mais ça, c'est plutôt des trucs de la fin. Il fait ouais, mais nous on le veut au début. Après, on s'est pris du rhum arrangé, des madeleines, bien sûr, il y avait du vin. Donc, moi, mangé de fou. Enfin, bon, c'était super.
Putain!
Mais ouais. Ouais,
c'est t'es triste de plus avoir
d'employeur. Le problème de la liberté, c'est que.
Qu'il n'y a plus personne pour te payer des coups.
Mais du coup, mon down, c'est en fait. Mon down, c'est tout ce qui n'est pas le planning familial termes de communication.
Tu veux dire ton manque d'éducation sexuelle, peut-être?
Alors, mon manque d'éducation sexuelle, oui. Et aussi la manière dont, en fait, quand j'avais donc 16 ans, je suis tombée enceinte de manière involontaire. Mm-hmm.
puisque je n'ai pas eu d'éducation sexuelle, enfin très peu, et tu vois, on apprenait en cours à mettre une capote sur une banane, mais alors c'était un cours de une heure, et puis c'est dans l'hilarité générale.
C'est absolument dingue, parce qu'en vrai, depuis 2001, on est censé tous avoir 3 séances par an d'éducation affective et sexuelle depuis la maternelle.
Ça me paraît vraiment très peu.
C'est déjà pas beaucoup, mais normalement, on devrait vraiment en avoir 3 séances par an depuis 2001, tout le monde devrait avoir 3 séances par an de la maternelle au lycée.
Dites-nous si c'est le cas chez vous, parce que moi pas.
Bah, en tout cas, moi je m'en souviens pas, mais je me souviens de ce cours-là où.
Oui, la banane.
Puis t'as 14 ans, donc tu fais des blagues sur la taille de la banane. Enfin, bon, tu vois, c'était pas malin, quoi. Donc. Parce qu'on n'y avait pas été exposé non plus avant,
ouais,
et que du coup c'est un sujet qui est considéré comme tabou et marrant, et dont tu parles pas en fait de manière pas institutionnelle, mais de manière sérieuse dans les cours, tu vois. Enfin, c'est un truc qui est pas pris au sérieux. Enfin, en tout cas moi à mon époque, maintenant ça fait 15 ans, tu vois, mais mais à mon époque, ouais, c'était pas un truc que j'ai l'impression qu'on prenait très au sérieux en tant qu'élève. Et donc quand j'ai eu mes premières expériences sexuelles, autant vous dire que la protection, je ne m'en suis pas servie.
Ouais.
Déjà parce que les hommes en général n'aiment pas ça.
Ouais.
Je ne suis pas allée chez un médecin pour qu'il me prescrive une quelconque pilule ou quoi que ce soit. Donc voilà, apparemment le retrait, ça marchait dans ma tête. Ce qui me paraît aujourd'hui complètement dingue, mais qui à l'époque, j'étais là, bah oui. Et puis en plus, j'étais avec quelqu'un de plus âgé, donc j'avais l'impression... Bah, lui, il connaissait mieux et tout, donc j'avais pas l'impression que... Enfin, j'avais l'impression d'être en sécurité,
oui,
tu vois, dans le truc. Pas en sécurité.
Il sait super bien se retirer.
Moi, j'ai fait ça un jour. Je me suis retrouvée chez l'infirmière le lendemain au lycée pour dire « Oui, alors en fait, j'avais pas trop bien compris. Du coup, bah, est-ce que je peux avoir une pilule le lendemain, s'il vous plaît ?»
Et elle te l'a donnée ?
Oui, pour le coup, elle me l'a donnée, etc. Mais vraiment, on déteste en fait les mecs plus vieux là qui, juste ne préviennent... Enfin, font comme s'ils savaient tout... Et abusent de leurs quelques années de plus que toi, genre laissez-nous tranquille.
Alors,
en fait.
Moi, je pense vraiment que
et aussi ils sont pas éduqués. Hein.
Ouais, je pense qu'il y a vraiment une croyance qui est genre ça va, je gère mon sperme, tu vois. Et je suis vraiment en mode non.
Vous I can handle my sperm. Que...
Non mais c'est vrai.
Un t-shirt.
C'est vrai, je pense qu'il y a vraiment un truc de pas de conscience de bah en fait les spermatozoïdes ils sont aussi dans le liquide préséminal. Enfin tu vois, genre il y a toute l'éducation autour de la pré-éjaculation en fait. Enfin
qu'on,
tout ce qui se passe
connaît pas du tout quoi. Ouais. Et donc voilà, en fait, ouais, mon down, c'est tout le tabou qu'il y a autour de ça, qui fait que, en fait, quand tu tombais enceinte, j'ai eu des conversations assez lunaires avec plusieurs personnes, et qu'il y a juste au planning familial où ça s'est bien passé. C'est-à-dire que je suis allée voir l'infirmière du lycée qui m'a dit « Êtes-vous prête à tuer votre enfant ?» vous allez, à 30 ans, vous allez faire une dépression et vous suicider parce que vous l'avez tué. Donc, j'attends, bah, j'ai 30 ans
illégal,
dans 2 ans.
Ça, c'est carrément illégal, je pense.
Et donc voilà, cette infirmière déjà compliquée. Heureusement, alors, je sais, j'ai assez peu de souvenirs de cette période-là. Ça a duré 2 mois, du coup, où j'ai... Je pense que c'est mon cerveau qui a un peu coupé plein de trucs,
normal.
Tu vois. Parce que j'étais assez jeune, mine de rien, tu vois, et je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Mais je me souviens, je crois que c'est une amie à moi qui m'a aidée à prendre un rendez-vous, du coup, au planning familial. Mmh. Et que là, en fait, elles m'ont accompagnée. Donc, c'était principalement des femmes, enfin, que des femmes, finalement, qu'elles m'ont accompagnée, qu'elles m'ont fait une échographie. J'ai compris ce que j'allais devoir faire parce que du coup j'étais trop avancée pour faire un avortement avec les pilules là.
Ouais, médicamenteux,
donc il fallait que j'aille me faire opérer. Donc c'était tout un truc et tout, donc elles m'ont vachement bien préparée et le truc c'est que dès que tu sortais, enfin j'avais l'impression que dès que tu sortais d'une association qui du coup est au courant de ce que c'est, a les bons mots pour en parler. En fait, les gens, comme c'est tabou autour d'eux, je me suis quand même retrouvée à l'entrée du bloc. Donc, je pleurais parce que j'étais stressée, tu vois. C'est quand même...
C'est une opération, en plus.
Ouais. Et c'était la première fois que j'avais une anesthésie générale, je crois. Ah non, j'avais eu l'appendicite avant. Bon, bref. Et il y a une infirmière qui m'a demandé pourquoi je pleurais. Et elle m'a dit, c'est parce que vous demandez comment vous en êtes arrivée là.
What?
Ça va pas bien.
Mais tu te rends compte, genre
c'est chaud.
Ouais, non, mais c'était vraiment chaud. Et je pense que, en fait, c'est de la méconnaissance pure et de, enfin, de de la shame autour de l'avortement qu'il y avait aussi à cette époque-là. Enfin, moi,
oui,
je me souviens.
C'est ce que j'étais en train de dire. Le seul espoir que j'ai, c'est que maintenant, 15 ans après, ça a quand même changé en majorité. J'espère.
Non, mais j'espère.
En vrai, je ne le garantis pas parce qu'il y a encore des établissements, des hôpitaux, etc., où on se retrouve encore à avoir un accès à l'IVG qui est extrêmement restreint parce qu'il n'y a pas de médecins qui veulent les pratiquer, par exemple. Enfin, vraiment. Et ça arrive en France. Donc, j'ai l'impression que, dans l'opinion publique, c'est admis. Oui. Mais dès que tu te retrouves, effectivement, comme tu le dis, dans la situation, t'es pas à l'abri, effectivement, de faire face à des gens qui comprennent pas.
Alors, moi, ma question, c'est est-ce qu'il y a un recours légal de fait maintenant? Est-ce que tu peux porter plainte et dire voilà, je me suis sentie harcelée par un membre de l'hôpital qui m'a fait des réflexions déplacées sur machin. Est-ce que c'est envisageable à l'heure actuelle ou pas du tout?
Je sais pas si c'est juste pour des remarques. Il y a un truc qui existe qui s'appelle le délit d'entrave à l'IVG. Donc si tu essayes de décourager quelqu'un, et ça existe, il y a aussi le délit d'entrave numérique à l'IVG. Donc par exemple, en revanche, là où tu pourrais porter plainte, c'est si tu cherches sur internet des informations pour avorter et que tu tombes sur ivg.net. N'allez jamais sur ce site. Vraiment, c'est le pire site. C'est des gens qui vont vous faire croire qu'ils veulent vous conseiller pour avorter, tout en réalité en essayant de vous déconseiller en fait d'avorter. Et ça, si tu te fais influencer par ces gens-là, que ça te porte préjudice d'une manière ou d'une autre, là je pense que tu peux porter plainte contre ces gens-là. Parce que c'est littéralement un délit. Après, est-ce qu'on peut porter plainte pour les délits? Je sais pas, je suis pas juriste. En tout cas, il y a des trucs qui peuvent exister, mais pour pointer spécifiquement un médecin, c'est pas vraiment genre je te décourage, je te dis que c'est mal pour toi, etc. Après, ça se trouve, ton infirmière de lycée, je ne sais pas.
En fait, moi, mon infirmière de lycée, elle l'a vraiment pris en mode, tu sais, je suis obligée de te dire des choses comme ça pour que tu te rendes compte de ce que tu fais, tu vois. C'est mon travail. Et j'étais là, ah bon, je crois pas. Mais j'étais pas sûre, tu vois, non plus.
C'est ton travail de dire à une meuf de 16 ans qu'est-ce qu'elle doit faire, ça n'a aucun sens. Enfin,
tu sais,
genre.
Ouais, mais même pas, tu sais, elle me. Toujours avec ce truc de c'est toi qui décides, mais je te dis ce que tu vas faire, que tu vas sûrement faire une dépression à 30 ans.
Ce qui n'est pas vrai en plus, parce qu'en réalité, les risques psychologiques liés à un avortement, généralement, ils disparaissent assez vite derrière, alors que les risques psychologiques de mener à terme une grossesse non désirée sont beaucoup plus élevés. Et d'ailleurs, les risques physiques également sont beaucoup plus élevés dans le cas d'une grossesse que dans le cadre d'un avortement.
Et pour l'enfant, en fait. Donc, c'est ça, je suis vraiment en mode genre. Mais encore une fois, ça revient à ce que disait Caline tout à l'heure, c'est-à-dire que, genre, écoutez les personnes qui vous parlent, en fait. Genre, on est consciente de ce qu'on fait, on est en pleine possession de nos moyens quand on dit des trucs, tu vois. C'est pas genre. On n'est pas des hystéros, en fait. Juste, il y a un moment donné où on a décidé d'un truc, laissez-nous tranquille, tu vois. Genre, pourquoi essayer de faire un débat de notre santé et de nos envies, tu vois. Genre, ça qui me rend ouf.
Mais du coup, je sais qu'à l'époque, moi, je prenais le planning familial complètement pour acquis, tu vois. J'avais même pas conscience que c'était une asso et tout. Et j'étais là, et j'y suis allée, et j'ai profité de ces soins-là, tu vois. Et aujourd'hui, je suis là, mais attends, c'est quand même dingue que j'ai dû compter sur une asso et que les médecins, tu vois, étaient, enfin, en tout cas, le personnel médical était pas formé pour parler de ces choses-là, en tout cas avec moi, que, enfin, c'était dingue, quoi. Donc voilà, en fait, c'est un cachet sur le planning familial, mais un petit dingue quand même sur tous les gens qui ont communiqué avec moi et même sur, tu vois, j'avais un médecin qui m'avait prescrit. Après, du coup, j'étais allée chercher la pilule, quoi. Et un médecin qui m'avait prescrit une pilule parce que, et en plus, je suis pas allée voir une gynécologue, mais du coup, quelqu'un qui me prescrit la pilule de manière un peu automatique, sans du tout faire un check-up de ce que, voilà, et
quels
j'ai
sont
découvert
tes besoins, ce que t'es, ouais, voilà, c'est ce ça. Genre de choses, genre basique.
Et en fait, j'ai découvert presque pas 10 ans après, mais genre quelques années après, que en fait cette pilule pouvait me provoquer un AVC à tout moment puisque j'ai des migraines. En fait c'était contre-indicatif, tu vois, et c'était un médecin de famille, tu vois, qui aurait pu me poser des questions.
Moi, une de mes meilleures amies, Laura, elle a la même pilule depuis des années et son médecin refuse de lui changer, je sais plus pourquoi là, alors qu'elle est fumeuse et que c'est vraiment la pilule la plus dangereuse pour les fumeurs qui peut te faire avoir un AVC 8 fois par jour, tu vois. Et je sais plus quelle était la raison, mais le gars lui a dit non, vous gardez cette pilule, elle était là.
Je vais aller changer de médecin, en fait.
Ouais, je vais changer surtout de médecin. Incroyable, quand même.
Mais c'est fou.
Très clairement. Non, mais par contre, n'hésitez pas vraiment à ditch vos vieux médecins. Les gens qui vous conseillent mal, en fait. Après, je sais que c'est hyper difficile de trouver des
notamment
gens avec qui on se sent à l'aise, etc. D'autant plus suivant là où on habite, etc. Mais
n'hésitez pas, si vous avez la possibilité, à changer quand c'est le cas. Je sais que c'est pas possible partout, mais si vous l'avez, changez juste.
Franchement, un gynéco, c'est comme un psy. Hein. C'est rare que ce soit du premier coup, mais ça vaut le coup de creuser un peu, quoi.
Ouais. Mais ce qui est bien, c'est qu'au moins, à la différence du psy, je trouve, c'est que le gynéco, tu peux le partager avec tes potes, tu vois.
Oui, c'est vrai. Putain, moi, il y a une époque, quoi, avec toutes mes copines au lycée, on avait la même psy, la même gynéco.
Ah oui.
La même gynéco, parce qu'à Levallois, où j'ai grandi, pardon, il y a une place qui s'appelle la place Pompidou, et il y avait la gynécologue qui était une connasse, mais c'était la gynécologue réputée de l'endroit qu'on se passait depuis les parents, les machins. Et ouais, toutes mes copines avaient la même gynéco et toutes nos mamans avaient la même gynéco. Et en fait, moi, je m'étais sentie, moi, je trouvais que c'était une vraie connasse qui me shamait vachement quand je parlais de vouloir changer de contraception, etc. Parce que j'étais trop tête en l'air pour prendre la pilule, ce qui était vrai. Tu vois, je sais que je peux pas prendre la pilule, moi. Enfin, pour aujourd'hui, pour d'autres raisons, mais à l'époque, c'était ça la principale. Et elle m'avait shamé quand j'avais dit, bah, moi, je voudrais le stérilet ou je voudrais le patch, machin. Bref, elle avait été super chiante. Et je m'étais sentie prise au piège avec cette meuf-là. Je pouvais pas la quitter parce que justement, tout le monde la voyait et que tout le monde disait que c'était la meilleure gynécologue. Voilà. Je vous déteste.
Et t'en avais jamais. Et quand t'en parlais, les autres disaient, non, elle est super.
Je sais plus.
Ok.
Et d'ailleurs, petit tips pour les gens qui voudraient changer, par exemple, de gynéco, etc. Sachez que si c'est juste une question de contraception ou même pour vos frottis, les sages-femmes sont habilitées à faire tout ça. Mmh. Moi, par exemple, je ne vais plus voir ma gynéco qui était là où étaient mes parents. Et à Paris, j'ai une sage-femme qui est géniale, d'ailleurs. Vraiment, merci à elle, je l'adore. Il y en a en région parisienne, en gros. Mais voilà, n'hésitez pas, parce que parfois, il y en a plus. Alors là, en l'occurrence, je l'ai trouvée parce qu'elle avait fait une interview sur Mademoiselle à l'époque où j'y étais et que j'étais genre une sage-femme qui a l'air drôlement féministe, dites donc. Ouais. Et du coup, j'ai pris rendez-vous avec elle et je ne l'ai plus jamais quittée car elle est super, vraiment. Voilà.
Okay. Ouais.
Non, mais effectivement, je l'ai partagée avec plein de gens aussi depuis.
Ouais, c'est ça, le bouche à oreille, ça marche vachement. Moi, je sais que j'ai un super médecin à Pantin. J'ai pas encore dit que c'était mon médecin traitant, mais j'ai un peu envie de passer ce pas. Enfin, faudra que je lui en parle. Et au-delà du fait qu'il est très beau, sans vouloir objectifier personne, mais en fait, il est super doux, super gentil et tout. Et l'autre jour, je sais plus, je lui parlais justement de ma gynéco que j'aime beaucoup. Et il m'a dit, est-ce que je peux noter son nom? Parce que, bah voilà, moi, je conseille à mes patientes des gynécos qui m'ont été recommandées par d'autres patientes pour être sûre qu'elles sont safe et tout. Et je trouve ça hyper bien, tu vois. Enfin,
stylé.
Ouais.
Franchement.
Après, c'est le truc de sûr qu'elles sont safe.
Oui.
Moi, je suis toujours un peu en mode.
Non, mais
on n'est jamais sûr à 100%.
Non,
en fait,
sûr.
Suivant qui t'es, quel est ton parcours, etc., c'est possible que tu trouves que cette personne n'est pas safe. J'allais dire, il y a le site Gynenco qui existe, qui est un truc de recommandation où il y a plein de gens qui mettent des gynéco, sage-femme, etc., qui sont plutôt engagés dans la cause féministe et tout. Après, ça veut pas dire que ils et elles sont éduqués sur tous les sujets. Enfin, tu vois, genre, moi, je pense on parlait des personnes LGBT tout à l'heure. En fait, il y a des trucs sur lesquels, en tant que femme cis, on va être c'est super, cette personne est géniale, et qu'une personne en transition, par exemple, va dire bah en fait c'était horrible, elle a pas du tout su m'écouter ou quoi que ce soit. Donc après, c'est une liste qui est à prendre. Au moins, t'as ça. Et...
Mais je trouve que c'est un moyen de commencer quelque part,
parce que
ça fait un peu le tri
dans la jungle de Doctolib. Et de...
Ouais, c'est ça, et tu prends celui qui est à côté de chez toi et t'es là. Ah, je croise les doigts.
Putain, ouais. Moi, ça m'est arrivé là, il y a pas longtemps, j'avais un problème de. Comment ça s'appelle ? Merde, vous voyez, en gros, à l'entrée du vagin, il y a des petites glandes. Comment ça s'appelle déjà ces glandes ?
Bref, tu me l'as dit en plus.
C'est les glandes qui font la mouille, qui font la sécrétion.
Ok.
Et moi, j'ai eu une infection de ça il y a pas très longtemps. Et en fait, c'était en gros, c'est quand ça s'infecte, c'est-à-dire que la cyprine n'est pas évacuée, et donc du coup, ça reste à l'intérieur. Et ton corps, une fois que t'es plus excité, il réutilise le truc, il fait hop, c'est pas grave, je le recycle et on en fait autre chose, tu vois. Et donc du coup, ça dégonfle.
Alors,
et c'est ok. Bah, tu sais, genre ça s'enlève quoi. Il en faisait quoi ? Je sais pas.
Je sais
pas. J'ai pas demandé à mon corps du miel, probablement.
Du vin biodynamique.
Et du coup, j'ai eu un problème avec ce truc-là. Donc, je vais voir un médecin d'abord, une gynéco. Oui, c'est ça. C'est une gynéco, une sage-femme pas loin de chez moi, au cabinet Ipso, qui sont des cabinets assez réputés à Paris pour être.
C'est là que j'ai trouvé ma gynéco.
Ouais, voilà. Bah, en fait, je crois que eux, ils sont assez réputés de manière générale pour être assez ouverts et assez chill sur toutes ces questions-là. Bref, et donc du coup, j'y vais. Elle me dit, bah, en effet, va falloir aller voir peut-être plutôt un spécialiste. Je pense, je sais pas, j'avais pas vu une spécialiste. Bref. Et donc du coup, je prends rendez-vous chez premier gynéco parce que je suis en mode genre vraiment là ça commence à être compliqué parce qu'en fait au bout d'un moment j'avais passé une semaine avec mon gars et donc du coup bah on avait fait que Ken tu vois donc forcément le truc était pas en train de se résorber puisque on avait fait que ça. J'étais excitée relativement souvent et donc du coup je vais chez le gynéco et le gynéco donc il y a un gars déjà que je connais le premier et en gros la solution qu'il me trouve c'est de me dire bah je vais vous ouvrir. Je vais prendre un scalpel et puis je vais vous ouvrir et puis je vais enlever tout ça, quoi. Et du coup, c'était soit ça, soit vous allez vous faire opérer bientôt. J'étais en mode, bah ok, il n'y a pas des solutions, genre je sais pas, des antibiotiques ou des trucs comme ça, tu vois. Genre non, non, les deux options c'était ça. Du coup, et bah ouvrir avec un scalpel. J'étais en mode, yes. Donc déjà, comment ça s'appelle ?
Spéculum.
Un anesthésiant. Donc déjà, la piqûre de l'anesthésiant, ça fait grave mal car je rappelle que c'est au niveau de ma tuche. Et en fait, après, il m'a ouvert avec le scalpel et je pense que j'ai senti tout le scalpel. Hein. Vraiment. désolé. Voilà. Et du coup, bon voilà, c'était un moment bof. Et donc après, j'ai passé une semaine à me mettre de la bétadine pour que ça cicatrise, etc.
Attends, je comprends pas. Il l'a fait comme ça au débeauté ?
Ouais, ouais.
Non, attends.
Je te jure.
Là, genre, il t'a dit, bah là, j'ai un créneau dans 2 minutes.
Ouvre la chatte maintenant. Sur combien de... Excuse-moi, parce que j'ai jamais entendu ça.
Mais en gros, si tu veux, là, c'est vraiment une glande qui est à l'entrée du vagin. Donc, c'est genre au niveau des petites lèvres, quoi. Donc,
d'accord.
En gros, t'as pas besoin d'aller dans le vagin ni rien. C'est juste genre à l'entrée. Bref, j'avais une couille, finalement, hein, vraiment. C'était globalement ça. Et donc, bref, du coup, il a fait ça. Et je suis ressortie et j'étais vraiment en mode... Ouais, mais encore une fois, je me fais bolosser. Parce qu'en vrai, j'étais pas trop d'accord, tu vois. Enfin, c'est quand même bizarre de t'attaquer direct à mes parties intimes sans essayer de régler le problème d'une autre manière, c'est-à-dire via des médicaments, par exemple, en premier lieu, tu vois, genre...
Ou même reprendre un rendez-vous le temps que tu te prépares.
Ouais, c'est ça, genre. Tu vois.
Et même du coup, que tu puisses prendre un deuxième avis ailleurs si t'es pas satisfaite.
Ouais, c'est ça. Mais moi, je crois que j'étais vraiment en mode... J'avais pris un premier avis puisque j'étais allée chez une gynéco une première fois qui m'avait dit prenez un rendez-vous chez un autre gynéco. Bref, je sais pas ce qui s'est passé comme affaire. Mais bref, du coup, je suis sortie et j'ai fait « Eh ben, voilà, j'ai plus de problème. » Et en fait, le gars me dit « Bah, en fait, c'est simple, là, ça va cicatriser. Et soit ça revient... » Soit ça revient pas, on sait pas. Et
mais non.
En mode, mais...
on l'adore.
Donc du coup, vous n'avez pas du tout réglé mon problème. C'est juste, t'as mis un pansement sur un truc de merde, tu vois, genre. Et heureusement, depuis, il m'est rien arrivé. Mais voilà, donc c'était ma petite anecdote sur les gynécos qui prennent des décisions très rapides. Et moi, j'étais vraiment en mode, j'ai envie que ça soit réglé parce qu'en fait, ça me fait mal et c'est chiant. Donc vas-y, fais-le, tu vois. Mais j'avoue qu'avec le recul, je suis un peu en mode. C'était bizarre quand même comme moment, tu vois.
Grave bizarre.
Chelou. Voilà.
Grave bizarre. Éloignez-vous des situations bizarres.
Ouais.
Dites non. Mais sinon, vous vous retrouverez avec un énorme tatouage de papillon sur le bras comme moi.
C'est
une belle histoire où en fait, j'ai sympathisé très fort avec une tatoueuse et je voulais un tout petit tatouage. Elle m'en a fait un énorme et j'ai pas su dire non. Mais maintenant, c'est bien, ça me le rappelle.
Voilà. Est-ce que quand t'as un doute, t'es là genre je regarde mon papillon
et je suis là.
Ça te rappelle
non,
non j'ai le droit de dire non.
Dites,
okay.
Dites non, dites non, dites non.
N'hésitez pas.
Quand non est une phrase, comme dirait Jane Fonda.
Oh, jolie citation.
Oui. J'espère que c'est bien elle qui l'a dit.
Je crois que oui.
Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûre. Eh bien, nous allons passer tout de suite sur la pente ascendante de ce podcast pour terminer en beauté, en feu d'artifice avec le up de Louise.
Oui. Ah tiens, je lis mes notes là et tu parlais de pilule tout à l'heure et d'oublier sa pilule, machin, nan. Au cas où, le planning familial a une application qui s'appelle Pill Oops et en gros, tu peux traquer tes prises de pilule, avoir des rappels un peu personnalisés et tout. Et si tu oublies ta pilule, il y a des conseils. Pour qu'est-ce que faire si tu as oublié ta pilule. Donc n'hésitez pas à télécharger cette application qui est faite par le planning familial. Donc voilà, ça vous... écoutez-moi, mon up est simple, c'est autour de la contraception. Alors ça fait donc, j'ai eu 18 ans je crois, c'était à 18 ans ma première fois, donc ça va faire 12 ou 13 ans que j'ai une vie sexuelle active. Ça fait plus que ça que je suis contraceptée puisque j'avais des règles douloureuses, donc on m'a prescrit la pilule quand j'avais 15 ans. Pareil, médecin de famille, t'es en mode bah ok je prends la pilule alors. Et en fait, là, depuis bientôt, ça fait plus d'un an maintenant que je suis avec mon mec. Et en gros, on a régulièrement des discussions autour de la contraception. Et moi, je suis un peu en mode, ça me casse les couilles, en fait, de devoir m'en occuper, d'avoir cette charge mentale. Ah ouais. Car ça fait des années que je l'ai, tu vois. Et avant qu'on se mette ensemble, on avait déjà discuté un peu de contraception, machin, nan, et il était en mode, genre, ouais, ça a l'air intéressant. Et j'étais en mode, ça a l'air intéressant, genre, tu t'y intéresserais pour le faire toi-même, par hasard. parce que du coup, il y a maintenant, alors, ce qu'on appelle communément, je pense, les contraceptions masculines, mais qui sont plus des contraceptions testiculaires, j'ai envie de dire. et donc, du coup, en gros, moi, j'ai découvert ça, il y a quelques années, je pense, puisqu'il y a quand même pas mal de papier, je pense, chez Mademoiselle, on devait en parler régulièrement, etc. Et du coup, en gros, il y a des contraceptions qui sont pas vraiment effectives dans le monde actuel, puisqu'il n'y a pas d'essai clinique. Donc, en gros, pour mettre en vente une contraception, il faut un essai clinique testé sur plusieurs personnes, je ne sais pas combien. Donc, en gros, pour tous les contraceptifs dits féminins, il y a eu plein d'études. On est sûr que la pilule peut donner un AVC. Ça, il n'y a pas de souci.
Par contre, on l'a accepté.
Ça, on l'a accepté. On est OK. Par contre, pour les contraceptifs dits masculins, donc du coup testiculaires, il y a moins de recherche déjà dans un premier temps. Et donc, du coup, il y a quand même des assos et des personnes ayant des testicules qui se mettent à faire un peu des tests et des recherches et tout.
Et en gros, y a un médecin en France en particulier.
Il y a un médecin à Toulouse. Wow. Ouais, il y a un médecin à Toulouse qui fait un
Docteur
essai clinique.
Mieux c'est.
Qui fait un essai clinique justement autour du slip chauffant, comme on l'appelle
communément. Ah oui, j'ai vu ça, oui.
Mais donc, qui est la contraception thermique en fait, qui en gros fait remonter.
Fait bouillir les petites.
Donc en gros, la contraception fonctionne de manière à ce que tes testicules sont remontés dans ton scrotum, je crois que c'est ça. Donc en gros, elles sont au chaud, c'est-à-dire que les moins 1 degré ou 2 degrés des couilles qui pendouillent, ça fait que ça produit des testicules.
Okay.
Et quand c'est au chaud, c'est pour ça que. Par exemple, je sais pas si vous aviez ça au collège ou au lycée, moi tous les profs disaient toujours aux gars arrêtez de vous asseoir sur les radiateurs parce que genre ça va nuire à votre fertilité.
Oui, c'est vrai.
Ils vous disaient ça ou pas?
C'est vrai, c'est vrai.
Et ben en fait, c'est lié à ça, c'est parce qu'en fait quand tes couilles sont au chaud, elles produisent plus de spermatozoïdes. Mais alors quand elles sont au chaud pendant longtemps, tu vois, genre oui. C'est pas t'asseoir 15 minutes sur un radiateur qui va nuire à ta fertilité. et donc en gros, il y a ces contraceptions là qui sont en train d'être développées, etc. Donc il y a un essai clinique à Toulouse du coup de Docteur Miocé, c'est ça tu dis?
Oui.
Et il y a moi j'ai lu plusieurs BD, une BD qui s'appelle Le cœur des obes et une autre BD qui s'appelle Les contraceptés, et qui globalement sont des BD qui se recoupent un peu, qui sont des parcours de mecs cis je crois qui veulent se contracepter parce que notamment souvent leur meuf est en mode j'en ai un peu marre de me contracepter, est-ce que tu pourrais prendre cette charge pendant quelques temps s'il te plaît, merci. Et donc du coup ils font un peu le parcours en mode ok, c'est quoi les contraceptions qui existent pour les mecs machin nan, et pour les mecs cis en tout cas. Et donc du coup il y a la vasectomie avec cette idée reçue de la vasectomie ça peut être
réversible.
Alors de ce que j'ai compris c'est réversible, il y a plusieurs opération. Et donc en France a priori on pratique pas trop l'opération qui est réversible. Donc en France c'est pas trop réversible. Donc si tu fais une vasectomie a priori c'est ad vitam aeternam.
Mais je crois que par contre quand tu fais une vasectomie en France on t'oblige à genre conserver tes petits spermatozoïdes quelque part.
Ah, je ne savais pas.
Il me semble que c'est, ou en tout cas on doit t'en donner la possibilité je pense, ou un truc comme ça.
D'accord.
À vérifier.
Nous ne sommes pas médecins, encore une fois, on est des meufs qui parlent dans un micro, hein, d'accord, voilà. et donc bref, donc en gros il y a plusieurs contraceptions masculines, mais moi j'avais un peu capté celle-ci, tu vois, je m'étais dit genre en vrai, donc le but de cette contraception là c'est donc de remonter les testicules, et donc il faut porter donc soit le fameux slip chauffant entre guillemets qui ne chauffe rien en fait, c'est juste un truc qui remonte tes couilles, soit un anneau qui est un peu, qui a le même effet, et donc du coup faut le porter 15 heures par jour, donc du lever au coucher quoi en gros. Et pendant plusieurs mois, je pense 3 mois en général, je crois que c'est ça la moyenne. Et du coup, une fois que tu l'as porté 3 mois, on fait ce qu'on appelle des spermogrammes. Donc en général, c'est des spermogrammes qui sont faits pour vérifier que t'es fertile. Et là, le but d'utiliser le spermogramme est inverse, c'est-à-dire c'est de vérifier que tu ne l'es plus. Et donc du coup, tu fais un premier spermogramme au début, puis après tu portes 3 mois ton anneau ou ton slip. Et au bout de 3 mois, tu refais un spermogramme pour vérifier si tes spermatozoïdes ont bien baissé, etc. etc. Et en gros, de ce que j'ai compris, c'est une contraception qui s'utilise sur un an, deux ans ou trois ans. Je crois que le max, ça doit être 3 ans, parce qu'en fait, comme il n'y a pas d'essai clinique sur le long terme, ils ne savent pas ce que ça peut faire sur la fertilité à long terme. Du coup, l'idée, c'est, ok, tu fais pendant 2 ans, t'arrêtes pendant 1 an, tu revérifies que tout va bien, tout fonctionne et tout, et puis après, peut-être, tu peux repartir, tu vois. Et du coup, moi, j'en discutais avec mon gars, et j'étais en mode, c'est quand même super, ça. Ça serait bien que, genre, à un moment donné, tu t'y intéresses, peut-être, éventuellement. Et récemment, on a un peu accéléré les choses parce qu'en fait, tu vois, là, ça fait 1 an qu'on est ensemble et moi, ça fait 1 an que je suis un peu en mode, bon, la contraception, c'est pas fifou, voilà. La vérité, c'est qu'on fait le retrait, tu vois, et que moi, ça me convient pas parce que je suis en mode, en fait, j'ai la chance d'être dans un pays où l'IVG est autorisé et accessible, mais ça me fait pas plaisir, en fait, si après-demain, je tombe enceinte, de devoir faire une IVG pour ma santé et pour mon mental, tu vois. Et donc, du coup, des grosses discussions que j'ai avec mon mec et que je tiens à rappeler que le retrait, c'était pas une contraception, voilà, déjà, dans un premier temps. C'est moi et ma santé, et c'est moi qui ai choisi ce qui se passe. Mais ne faites pas ça chez vous. Et en même temps, c'est une réalité, tu vois, genre, je sais que j'en ai parlé vachement avec des potes, et on était en mode, en fait, il y a aussi un moment donné où faut réaliser que, en fait, si, je sais pas, le préservatif, ça te convient pas, c'est que c'est pas une bonne contraception pour toi. Si la pilule, ça te convient pas, c'est que c'est pas une bonne contraception pour toi, et qu'il faut... plutôt trouver la bonne contraception plutôt que shamer les gens qui font des trucs qui sont logiquement admis dans la société en mode non faut pas faire ça, tu vois, t'es en mode oui on sait qu'il faut pas
d'autant
faire ça.
Que pour certains cas il y a aucune contraception ne convient, moi oui. aucune ne me convient, c'est à dire que j'ai pas le droit au stérilet, j'ai pas le droit à la pilule et les préservatifs me foutent, je suis allergique, me foutent des plaques et me font avoir des candidats à chaque fois.
C'est quoi les
candidats? Les champignons.
Des petits gars.
Ah, okay.
Les champignons. Et moi, à chaque fois que j'utilise une capote, j'ai des champignons, tu vois. Ouais. Et vraiment, c'est peu agréable.
Bah oui, j'imagine.
Donc, il y a des gens pour qui il n'y a quasiment aucune contraception qui va.
Bien sûr.
Parce que je rappelle que la dernière fois que j'ai mis un patch, ça m'a fait un ulcère.
Toi, faut te reboucher le trou, en fait.
Mais du coup, tu vois, genre là, en gros, ça fait un an et quelques qu'on est ensemble, et là, on a eu une discussion la dernière fois, je lui ai dit, écoute, est-ce que vraiment ça t'intéresse, ou est-ce que je te force la main et ça t'intéresse pas, auquel cas, c'est pas grave, moi, je vais me renseigner de mon côté pour avoir une contraception et voir laquelle me conviendra le mieux, tu vois. Et en fait, du coup, on en a rediscuté, il m'a dit, non, vraiment, ça m'intéresse, et du coup, il a pris rendez-vous, donc, au planning familial. Il y a une réunion qui est animée par une association qui s'appelle Zéro Million, donc en gros, c'est pas le planning familial qui l'anime, mais c'est une asso qui est spécialisée dans la contraception dite masculine. En gros, le planning familial les accueille gratuitement pour faire leur réunion une fois par mois ou je sais pas tous les combien. Et à chaque fois, ils font de l'information auprès de toutes les personnes que ça intéresse qui veulent se renseigner sur ces sujets-là, quoi. Et du coup, il a été à cette réunion-là. Il a fait son premier spermogramme et je suis en mode genre, wow, God bless. Alors, on a reçu les résultats. J'étais en mode, ok, on comprend rien. Heureusement qu'il faut un médecin pour le lire et tout. Et après, il me dit, en fait, j'en ai parlé avec des potes qui font ça aussi, qui disent en fait, une fois que t'as compris comment on lit un spermogramme, après c'est facile, t'as pas besoin d'un médecin, mais juste la première fois tu le lis, t'es en mode, ok c'est bizarre, il y a 12 000 infos sur les différents types de spermatozoïdes et tout, t'es vraiment en mode, c'est vraiment précis, tu vois. Et du coup, là, mon up, c'est qu'il a commandé son fucking anneau.
Trop bien. Comment ça se met?
Et en gros, c'est un anneau dans lequel tu passes ton pénis et la peau des couilles, en fait, puisque les testicules restent
en
à
gros,
l'intérieur.
Ça les remonte comme ça, tu passes juste la peau et hop, ça les remonte.
Ouais, et donc du coup, ça
si
les
vous voulez voir graphiquement, il y a des vidéos sur internet qui montrent de l'association Garcon. Et oui, effectivement, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, j'avais fait tout un reportage car tu parles de l'anneau, mais il y a aussi comme. Donc, on a dit que c'était très difficile d'accéder à cette méthode parce qu'il y a un seul essai clinique en France. Les conditions pour rentrer dedans sont... Enfin, il faut être en couple, stable, depuis... Enfin bref, il y a des trucs un peu chiants.
Parce qu'en fait, moi, j'en parlais avec ma gynéco récemment, que j'ai été voir du coup, après qu'on en ait parlé. Moi, j'ai été me renseigner sur les contraceptions et tout. Et du coup, elle me disait, en fait, ce qui est compliqué avec les essais cliniques sur la contraception masculine, c'est que ta partenaire est en mode, elle doit pas avoir de contraception, puisque le but, c'est de voir si ça marche. Et donc, du coup, faut que tu sois prête à tomber enceinte. Donc, j'entends qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes qui puissent entrer dans les essais cliniques, tu vois.
C'est clair.
Ouais. Et du coup, face à ça, et pour avoir quand même... Donc, en gros, ce médecin ne distribue des...
les slips chauffants qu'il fabrique lui-même, qu'aux patients qu'il suit, qui sont beaucoup moins nombreux que le nombre de mecs qui essaient vraiment la contraception thermique en France. Et il y a des ateliers dans plusieurs villes de France. Hein. Il y en a à Paris, il y en a en Bretagne, il y en a à Toulouse, etc. Et moi, j'étais allée dans un atelier où ils confectionnent leur propre slip chauffant. Du coup, donc avec des petites bandes de tissu et d'élastique et tout. Et là, tu vois, tous les mecs qui sont là en train de coudre leur truc et tout. Et en vrai, c'est assez cool à voir.
Comme les ateliers céramiques, un peu.
Oui, c'est ça.
Et du coup, bah, si ça vous intéresse, il y a plusieurs, bah, du coup, je vous disais tout à l'heure, il y a deux BD là qui sont sortis, Le cœur des obes et Les contraceptés, qui font un peu, ça retrace et le parcours de contraception des mecs qui écrivent les BD, et en même temps, ça fait un peu de l'historique de depuis combien de temps ça existe ces contraceptions là, qui s'y est intéressé, etc. Et en fait, c'est un truc qui remonte genre aux années 70, quoi. C'est les gars dans les années 70, au moment de la libération sexuelle et tout, ils étaient en mode, on aimerait bien savoir, enfin, bon, où on met notre sperme, et ça serait bien que, genre, on mette pas tout le monde enceinte, tu
puisque
vois.
Puisque leur but, rappelons-le, est quand même déjà
bien sûr. et donc, du coup, c'est assez intéressant. Les premiers, enfin, tu sais, genre, les deux BD, ils rappellent un peu, genre, les premiers trucs des slips chauffants. C'était genre, ils mettaient des batteries de vieilles, tu sais, genre, voitures télécommandées pour se chauffer les couilles et tout. Genre, vraiment, c'est chaud. Ça pouvait être dangereux, quoi, à l'époque.
Ouais, non, parce qu'il y a eu des tests, justement, ouais, avec des petits trucs chauffants, vraiment qui chauffent, tu vois, alors qu'il n'y a pas besoin de ça. Il y a juste besoin de les mettre contre ton corps, tu vois.
C'est juste une bouillotte.
Ouais,
ça
mais en
ou
fait, ta bouillotte, elle va pas rester chaude 15 heures dans ta journée, tu vois.
Ça dépend quelle bouillotte.
Ok, nous avons une expertise bouillotte ici.
Je lance ma ligne de bouillotte chaude 15 heures dans la journée. Sans de thermos.
Design très adapté.
À vos couilles.
Voilà, petit coussin.
Tu offrais ta couille.
Mais non, mais donc, en effet, du coup, il n'y a même pas besoin d'avoir un truc, c'est-à-dire que juste à remonter tes couilles, quoi. Et en fait, c'est vraiment pas très compliqué, et de ce que j'ai... Enfin, pas très compliqué, j'en sais rien, j'ai pas de couilles, mais en tout cas, voilà, donc là, mon gars a commandé son truc, et donc c'est trop marrant. Donc, comme c'est pas légal, puisque vraiment, genre, le gars qui faisait les anneaux... donc, en gros, t'as soit les slips, soit les anneaux. Et donc, c'est un anneau en silicone que tu places, et après, tu fais ta life, tu vois. Et en fait, ce gars-là s'est fait interdire de vente, puisque bah en fait c'est pas il y a pas eu d'essai clinique et tout machin là, non et donc le site c'est vraiment genre
sur le dark web.
C'est pas sur le dark web, mais c'est genre c'est un espèce de truc qui dit genre vente de c'est quoi déjà genre objet stellaire, je sais pas quoi, tu sais genre on dirait ils vendent la déco, tu sais. Et donc c'est trop drôle parce que il y a différentes tailles et tout, faut que tu mesures ton sexe en érection et au repos pour voir quelle taille il te faut machin nan. Et donc il y a des commentaires sur le site, c'est trop drôle. Il y a un commentaire d'un gars qui dit ouais, je voudrais commander ça pour ma licorne empaillée, mais comment est-ce que je suis censée savoir la taille pour la corne et tout. Enfin, tu sais, genre, du coup, tout le monde essaye.
Corne empaillée.
Tout le monde essaye de faire des trucs de genre, on commande pas vraiment des anneaux contraceptifs, on fait autre chose, tu vois. Et donc, du coup, c'est un peu marrant, je trouve, cette espèce de truc de lutte contraceptive des mecs qui sont obligés de mytho pour avoir une contraception.
C'est fou, quand même. Fou, quoi.
Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner et à enlever la charge contraceptive de votre meuf ou de votre partenaire.
Même si, en vrai, moi, je trouve qu'il y a un autre truc là-dedans où t'es genre à quel point tu fais confiance, tu sais, genre à quel point tu te dis oui, il va vraiment genre je trouve qu'on a tellement
porter
été conditionnés
pendant 15 heures
comme quoi on était les seuls à avoir la maîtrise de
bien
notre
sûr.
Fertilité etc. Que finir par se dire ok c'est bon, je peux lui faire confiance, il va porter son truc 15 heures par jour, c'est sûr, ça va marcher et tout.
Ouais. Ça c'est surtout genre... tout à l'heure je suis rentrée, on m'a dit qu'on avait fait le ménage, la poussière avait-elle été faite? Non, en réalité, donc
Non mais c'est ça, tu peux faire des petits tests. Si pendant, je sais pas, 2 mois et demi, il sort la poubelle à l'heure,
en fait,
t'as dit qu'il devait la sortir. Peut-être là tu peux lui filer un slip.
Non mais en fait déjà il y a un truc où moi il y a des spermogrammes en fait pour vérifier, donc il y a un moment donné où le spermogramme
c'est la pire engueulade de couple. Regarde ton spermogramme, t'as pas porté ton slip.
Ça met fin à mon up qui est que quand même putain mon gars s'est sorti les doigts pour se faire
ça, c'est cool.
Yes. Tracepter et ça fait plaisir putain.
Super.
Grave.
Bravo.
Voilà.
Et bravo de lui avoir fait se sortir les doigts.
Bah, c'est pas que moi, tu vois, genre, enfin, en fait, il y a eu juste un moment donné où juste on a eu une
discussion. Ne lui enlevons pas aussi ouais, c'est son, oui, oui, oui. Son crédit.
Un petit pas pour l'homme est un petit pas pour l'homme. mais c'est déjà
mais,
un pas.
Non, mais tu vois, c'est qu'il y a un moment donné, s'il avait pas du tout envie de le faire, c'est, enfin, j'avais beau dire c'est intéressant, ça serait bien qu'on y jette un œil, bah, ici, il a pas envie de le faire, il a pas envie de le faire, tu vois, je vais pas lui forcer la main, comme il va pas me forcer la main à prendre la pilule si j'ai pas envie de prendre la pilule, tu vois. Ça semble logique.
Certes. C'est vrai.
Son corps, son choix, finalement.
C'est vrai, son voilà. corps, son choix. Pas de zizi, pas d'opinion. pas du terrus, pas d'opinion. voilà, bah, merci beaucoup. Merci plaisir. À toutes les trois d'avoir
merci
participé
à
ce
merci.
Podcaston. J'espère que vous avez bien aimé, chers auditeurs et auditrices, entendre parler de tous ces sujets qui nous tiennent vraiment à cœur. Vous avez tous les liens dans la description du podcast pour adhérer, de faire des dons au planning familial qu'on soutient de tout notre cœur. On soutient aussi les grévistes et on va libérer Esther pour qu'elle puisse aller chanter avec eux et non mais enfin
Macron le chef de cœur de la chorale des grévistes
avec Véronique
mais
Sanson.
Détrompez-vous, on fait énormément la fête. L'autre jour, on a chanté Diams la boulette, c'était super. Ah,
moi, c'est ce qu'on me meilleure. Dit que c'est la meilleure ambiance. J'ai un peu envie d'y aller.
Jusqu'au CRS.
Et jusqu'au là, CRS. Ça voilà, ça,
rester c'est... sous les ballons syndicaux, c'est un peu plus safe qu'ailleurs.
Okay. Voilà.
Notez.
Merci Esther d'être venue dans 4 quarts d'heure. C'était
avec
vraiment un plaisir.
Plaisir
de te recevoir. Bravo pour ton documentaire qu'on a hâte de voir. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, bah, suivez-nous partout sur toutes les applis de podcast.
Oui, n'hésitez
abonnez-vous,
pas.
Abonnez-vous si vous nous aimez un
oui.
peu.
Et parlez-en autour de vous.
Parlez-en
ouais,
autour
faites-le
de vous.
Là.
Non, mais plus vous en parlez autour de vous, plus
merci,
il y a des gens qui
vous
écoutent.
Vous êtes des choux déjà, vous nous écrivez
c'est
souvent
super,
ouais. et tout, c'est trop cool. On vous aime, quoi.
Ouais, ouais. Tous les commentaires sont toujours tellement mimes et voilà.
Il y a aussi beaucoup de commentaires qui disent qu'on dit de la merde. Enfin,
oui,
j'ai dit de la merde la semaine dernière.
Ah bon ?
Ouais, ouais, sur Pina Bosch. Qui est complètement décédé en fait. Donc j'ai confondu avec Offenstatter.
Ah.
Et c'est la troisième fois que je confonds. Donc voilà.
Mais surtout les deux allemands, ça passe.
C'est les consonances qui m'ont perdu. Donc Pina Bosch est bien décédé, n'a pas aidé Cédric Clapiche à faire un film.
Non, voilà.
Ah, d'accord. J'avais oublié le contexte.
C'était Offenstatter. Donc je me suis dit ouais, voilà.
Ça arrive à tout le monde. Merci de nous dire quand on fait des
oui,
bourdes.
Oui, merci
c'est,
beaucoup.
Souvent important.
C'est souvent.
Et c'est souvent, de
c'est
toute
souvent.
Façon.
De manière générale.
J'espère qu'on n'a pas dit trop de conneries aujourd'hui. Et on se dit à dans 80 minutes de quart d'heure. Salut, ciao.